au programme de VOA Afrique.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Nous sommes lundi et comme vous le savez, c'est le rendez-vous du sport. Ce soir, nous allons faire le point des Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement à Tokyo, au Japon. Et comme d'habitude, la marche était trop haute pour les Africains, même s'ils ont glané quelques médailles. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants. Je salue Amédine Sy qui est en direct de Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk, qui est à Casablanca au Maroc, est aussi avec nous. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Nous avons depuis Cotonou au Bénin, Albert Ogoudedji du service des sports de Radio Bénin. Albert, bonsoir.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosuro, fidèle au poste. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Bienvenue à tous sur Sportsforama. Les Jeux Olympiques sont rentrés dans leur deuxième semaine de compétition avec l'épreuve de l'athlétisme, une discipline qui devrait ramener assez de médailles à l'Afrique, mais malheureusement tout ne se passe pas bien comme prévu. Après l'Éthiopien Selemon Barega qui a remporté l'or en 10 000 mètres, le Marocain El Bakkali vient de limiter en 3 000 mètres stipple. Alors Amine, bonne nouvelle pour le Royaume qui peine à briller dans ces Jeux.
Certainement que sur la première semaine, tout le monde était déçu par la prestation des sportifs marocains, que ce soit en boxe, en taekwondo ou en judo. Mais tous les regards et tous les espoirs étaient placés en Soufiane El Bakkali lors de la finale du 3000 mètres stipple, numéro 1 mondial l'année dernière, numéro 2 sur la série des meetings de la Diamond League en 2021. Ce dernier a couru de manière très intelligente, imposant un rythme médian qui lui a permis de neutraliser les attaques des athlètes éthiopiens et kényans. Et sur la dernière ligne droite, il a su imposer sa vitesse terminale pour l'emporter. Il met fin ainsi à l'hégémonie kényane sur le steeple depuis 1984. Il met fin à une série d'insuccès pour le Maroc aux Jeux Olympiques depuis les deux médailles d'or glorieuses d'Hicham Liguorouche en 2004. Espérons maintenant, s'il s'aligne sur le 1500 mètres, qu'il puisse ramener une autre médaille. En tout cas, il lave un peu l'image et la réputation des sportifs marocains. Aujourd'hui, c'est jour de fête au Maroc et c'est jour de joie pour tous les Marocains.
Merci Amine. Et grande déception par contre sur les 100 mètres, messieurs. Malgré l'absence des Américains Christian Coleman et Trevor Bommel, aucun Africain n'a fini sur le podium.
On ne peut pas dire que l'absence d'Africains en finale du 100 mètres soit une surprise. Depuis très longtemps, cette distance a été dominée, trustée par les athlètes jamaïcains, américains, les Européens d'origine américaine ou naturalisés. Mais ce qui est certain, c'est que nous attendons beaucoup plus de nos athlètes à partir du 400 mètres, voire du 800 mètres, où ils devraient truster les premières places avec visiblement une course contre la montre pour les médailles entre athlètes kényans et athlètes éthiopiens, avec peut-être une incursion marocaine avec Soufiane El Bakkali sur le 3000 mètres stipple. Ce qui est certain, c'est que nous attendons beaucoup plus de l'Afrique. On fera les comptes à partir de la fin de la semaine et à partir de la fin des épreuves d'athlétisme qui auront pour dénouement final la dernière épreuve dans l'histoire des Jeux à chaque fois, c'est-à-dire le marathon.
Albert, grosse déception aussi pour Marie-Josée Talou. Comme au jeu de 2016, l'Ivoirienne a pris la quatrième place à la finale derrière les trois Jamaïcaines.
Très attendue pour cette finale, Marie-Josée Talou est passée un peu à côté. Elle s'est crispée, elle est restée inhibée par l'enjeu de la finale. Il n'y a qu'à voir ses larmes à l'arrivée pour comprendre sa grosse déception, sa grosse frustration et cette nouvelle occasion manquée pour elle de devenir championne olympique, un rêve qu'elle caressait, un objectif qu'elle pouvait atteindre, mais sur ce coup-là, elle a manqué de près. Les trois Jamaïcaines, surtout Shelly-Ann Fraser et la championne olympique désormais, comme à Rio, Hélène Thompson.
L'Ivoirienne en lice sur les 200 mètres garde toujours une chance de médaille, tout comme les deux Namibiennes, Béatrice Masilingi et Christine Mbouma, d'ailleurs privées de 400 mètres en raison de leur hyperandrogénie. Alors, Amédine Sy, un tournoi difficile aussi pour les lutteurs africains. Aucun n'est parvenu à aller loin.
Tout à fait, Élisée, le tournoi est difficile, très difficile même pour les lutteurs africains qui souffrent le martyr, car l'Algérien Abdelkarim Ferhat et l'Égyptien Mohamed chez les moins de 60 kilos en lutte gréco-romaine ont été éliminés d'entrée. Hein. C'est le cas aussi du Tunisien Amine, à ne pas confondre avec notre porteur de stock Amine Birouk et de l'Égyptien Abdel Latif ou Mohamed dans la catégorie des moins de 130 kilos. Du côté des dames également, la Tunisienne Zeynep et l'Égyptienne Samar ont aussi courbé les chines en litre libre chez les moins de 76 kilos. Élisée, cela veut dire simplement que le tournoi est extrêmement difficile pour les lutteurs qui représentent le continent africain.
Amédine, on reste avec vous. Une édition 2021 du 16 juillet qui ne se passe pas bien pour le Sénégal.
Oui, Élisée, pour les représentants sénégalais, les jours passent mais se ressemblent car ils sont éliminés. Dès le premier tour, les représentants sénégalais à ces Jeux olympiques ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu. En effet, après Ndaye Binta Diong, Ibrahima Diawa, etc., c'est au tour du judoka Mbagnick Ndiaye de sortir de ces Jeux olympiques, le co-porte-drapeau sénégalais sur qui le Sénégal misait beaucoup pour remporter sa deuxième médaille olympique de l'histoire a été écarté par le Russe Tarmelian. Le numéro 1 mondial n'a laissé aucune chance au Sénégalais Mbagnick Ndiaye qui l'a battu par Ipong. Au bout de 2 minutes et 51 secondes, je signale Élisée que Mbagnick Ndiaye est le 7e athlète hein, sénégalais éliminé d'entrée depuis le début de ces Jeux olympiques. Maintenant, les derniers espoirs de médailles au niveau du Sénégal reposent sur les deux derniers athlètes. Il s'agit de Adama Diatta et de Louis-François Mendy Élisée.
Albert, sur 7 athlètes, il ne reste qu'un seul pour le Bénin, Odile Arawanou, qui aura aussi fort à faire en étape longue.
Comme pour les 6 autres, ça sera évidemment compliqué vu le plateau qui se présente à Odile Awanwanou pour ce rendez-vous en heptathlon. Pas évident, un peu à sa place, parlant bien sûr de participation aux Jeux Olympiques, la médaille olympique pour le Bénin cette année. Il faudra attendre après, si on veut voir le verre à moitié plein, les Béninois pour la plupart ont amélioré leur performance personnelle. Tous ont réussi à faux record personnel et c'est peut-être ça la bonne nouvelle, c'est peut-être ça le point positif de la participation du Bénin à ces Jeux Olympiques. En attendant, pourquoi pas de voir améliorer surtout ses performances.
On a perdu Albert Lawal. En somme, c'est un peu plus compliqué pour les athlètes africains.
Oui, Élisée, malheureusement, assez compliqué pour les athlètes africains. On ne devrait peut-être pas être surpris de cette performance parce que les athlètes africains n'ont peut-être pas eu le temps nécessaire pour bien se préparer.
À cause du coronavirus.
Et on avait prédit que les performances allaient être très compliquées pour les athlètes en général et pour les athlètes africains. On constate que malheureusement, c'est ce qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il faudra rebondir sur cette de performance afin de préparer Paris 2024.
Merci. Lawal, il faut dire qu'en bosse, le Ghanéen Samuel Taki, qualifié pour les demi-finales, est assuré de ramener à son pays une première médaille olympique depuis les Jeux de Barcelone en 1992 en saut en longueur féminin. Seule représentante africaine des qualifications, la Nigériane Eze Broum a validé son ticket pour la finale grâce à un saut à 6 m76. La médaillée de bronze des derniers championnats du monde est la qualifiée qui a sauté le moins loin des séries. On enchaîne avec les sports collectifs. Et Amine, belle performance de l'Égypte en handball, qualifiée pour les quarts de finale, pendant que ça a été plus difficile pour la Tunisie en volleyball. 5 défaites en autant de matchs.
Je ne suis pas surpris par le brio égyptien, d'autant plus qu'il y a eu les prémices lors des derniers championnats du monde qui se sont disputés à domicile, au Caire, où les Égyptiens avaient réussi à atteindre le quart de finale de la compétition, tenant tête au futur champion, le Danemark, et ne s'inclinant qu'au tir au but lors d'une fatidique séance, alors qu'ils avaient la possibilité de se qualifier dans le dernier carré de la compétition. On leur souhaitait d'aller le plus loin possible dans cette édition des JO de Tokyo. Et il y a de fortes chances qu'ils puissent briguer une des 3 médailles. Concernant la Tunisie en volleyball masculin, c'était prévisible. La sélection tunisienne se trouvait dans le groupe de la mort avec les États-Unis, le Brésil champion olympique, la France, l'Argentine
et bien évidemment la Russie. On peut d'ores et déjà dire que l'équipe tunisienne est allée pour apprendre. Idem pour les Kenyanes en volleyball féminin et pour l'Angola en handball féminin. On peut d'ores et déjà dire que l'Afrique a un gros chantier lors de la prochaine Olympiade à Paris, faire évoluer les sports collectifs hors football.
Ahmedine, attendu, les équipes de basketball masculine et féminine du Nigeria ont déçu, surtout par leurs prestations.
Tout à fait, Élisée, car elles n'ont pas réussi à passer le cap du premier tour. Pire, l'équipe féminine du Nigeria, quatre fois championne d'Afrique, quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2018 et invincible face à des équipes africaines depuis l'Afrobasket de 2015 qui s'est déroulée à Yaoundé. D'ailleurs, l'équipe féminine nigérienne est la seule équipe à avoir battu la Serbie championne d'Europe récemment en match amical. Mais le Nigeria, qu'on considérait comme favori, est passé complètement à côté de son tournoi en concédant des défaites face à l'Australie et à la France. Donc les Nigérians sont passés complètement à côté de leur tournoi. Du côté des hommes aussi, hein, la déception est énorme, Élisée, car l'équipe du Nigeria qui compte 8 joueurs qui évoluent en NBA a été éliminée aussi au premier tour, alors qu'on pensait que cette équipe qui avait battu les États-Unis, la Dream Team, en match amical pouvait nous valoir beaucoup de satisfaction. Mais il faut dire que la montagne a accouché d'une souris, Élisée.
Albert, j'espère que vous êtes là. La déception s'est poursuivie en football avec l'élimination de l'Égypte par le Brésil et surtout la Côte d'Ivoire qui doit s'en prendre à elle-même face à l'Espagne.
Autant l'Égypte n'a pas forcément à rougir de son élimination face au Brésil, autant je crois que les Ivoiriens, qui sur ce match était vraiment prenable. Une équipe ivoirienne de talent, de qualité, qui a mené par deux fois et qui, au regard du scénario, a quand même laissé passer sa chance. Il y avait des moyens pour la Côte d'Ivoire pour aller chercher cette place-là en demi-finale. Malheureusement, ils ont manqué d'ingrédients à certains niveaux à l'arrivée. Ils se sont fait punir par une très belle équipe finalement de l'Espagne qui a fait le boulot, qui a encaissé, qui a tenu et qui, quand il fallait piquer, a piqué les éléphants de Côte d'Ivoire.
Lawal, l'Afrique n'aura pas encore une médaille dans les sports collectifs, surtout en football.
Oui, Élisée, le constat est là. On le voit assez bien. Et après le Nigeria et le Cameroun,
il n'y aura pas un troisième pays.
En tout cas, pas pour Tokyo 2021. On espère que en 2024, les Africains vont pouvoir mieux se préparer pour ces jeux-là. Et on espère également qu'il n'y aura pas de contingence sanitaire pour les empêcher de véritablement bien se préparer. Maintenant, au-delà, c'est la question de l'organisation même des équipes africaines qui se posent à ce niveau-là. On a forcément attendu les derniers moments pour commencer par préparer
ces jeux-là. Le coronavirus, tout chamboulé. Les clubs ont même refusé de laisser leurs joueurs prendre part à ces tournois olympiques.
Le coronavirus a tout chamboulé, mais depuis que le Cameroun a réitéré l'exploit du Nigeria, après Atlanta, ce fut le tour de Cameroun à Sydney en 2000. Après ça, 20 ans après, 21 ans pratiquement après, plus rien. Ça veut dire que quelque part, il y a eu un relâchement des équipes et malheureusement on ne doit pas rendre le corona responsable de cette contre-performance, en tout cas pas entièrement.
Si les autres sont en train de réussir,
c'est que on aurait
pu, pas l'Afrique aussi.
On pouvait également réussir, mais on a mal engagé les préparatifs et puis aujourd'hui les performances sont là et la Côte d'Ivoire a été l'équipe qui a le plus déçu avec ce carton-là qu'elle se permet de prendre face à l'Espagne. L'essentiel pour les Zambiennes, c'était de participer. Elles ont participé à ces Jeux Olympiques et la devise du baron de Coubertin, c'était l'essentiel est de participer. Elles l'ont réalisé, j'allais dire. Mais au-delà, il fallait quand même montrer qu'on n'est pas venu au jeu simplement pour participer, mais pour montrer quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas été.
Euh, un apprentissage difficile donc pour les Zambiennes au moment où la CAF s'est engagée dans le développement du football féminin à travers la première édition de la Ligue des Champions. Des tournois de qualification se déroulent dans les différentes zones afin de dégager 8 équipes pour la phase finale. Ainsi, les qualifications de l'Afrique du Nord ont eu lieu à Berkane au Maroc et à Mines. Sans surprise, ce sont les filles militaires de l'ASFA qui se sont emparées du seul sésame.
Sans surprise, c'est l'équipe de l'ASFAR qui représentera la zone UNAF. Les joueuses championnes du Maroc ont dominé de la tête et des épaules le triangulaire qui les a opposées aux championnes d'Algérie, de Tunisie, à Oujda et Berkane cette semaine. Elles ont commencé leur parcours en dominant largement les championnes d'Algérie sur le score sans appel de 4-1. Et elles ont poursuivi leur démonstration de force avec un score de 10-0 face aux championnes de Tunisie, Banque de l'Habitat. L'équipe de l'ASFAR s'est professionnalisée au fur et à mesure des années. Elle constitue le socle de l'équipe du Maroc, qui est drivée en ce moment par l'ex-international français Reynald Pedros. On peut d'ores et déjà dire que c'est un futur épouvantail de cette édition de la Champions League africaine qui se présentera en Égypte pour cette première édition.
À Médine, l'AS Mandé du Mali, vainqueur du Dakar Sacré-Cœur, assure la seule place qualificative de la zone A UFOA, dont les éliminatoires ont eu lieu à Praria, au Cap-Vert.
Tout à fait, Élisée, l'AS Mandé du Mali qui a remporté la première édition du tournoi de la zone A de l'UFOA. Mais ça c'est Élisée que les Sénégalais de Dakar Sacré-Cœur n'ont pas démérité. Certes, elles ont perdu le dernier match face aux Maliens sur le score de 4-0. Mais les Dakaroises qui n'avaient besoin que d'un match nul pour valider leur ticket après leurs deux victoires sur le même score de 1 devant respectivement les Girls du Liberia et le Seven Star du Cap Vert sont tombés sur une excellente formation malienne. Donc l'apprentissage va continuer pour les filles de Dakar Sacré-Cœur qui ont raté le ticket qualificatif de Justice Élisée.
Albert, par contre, dans la zone B de l'UFOA, il y aura 2 qualifiés et il faut attendre jeudi prochain pour les connaître.
Oui, avec 2 équipes annoncées comme grandissimes favorites pour représenter la zone. Il s'agit des Nigérians du Rivers Angel et des Ghanéens du Asakas. Avantage à ces 2 équipes. En face, on aura les Amis du Monde face aux Nigérians et l'équipe du Burkina de l'USFA face aux Ghanéennes. Le Burkina et le Togo sont des pays qui essaient d'exister en matière de football féminin face au Ghana et face au Nigeria qui sont des références. Cette zone aura 2 représentants et il est fort à parier que ces 2 représentants devraient être Rivers Angel du Nigeria et Asakas Ladies. Et chapeau surtout aussi à la CAF qui a vraiment rendu continentale la participation des équipes pour cette Ligue des Champions. Et on devrait avoir quasiment des équipes provenant de toutes les zones de l'Afrique pour la phase finale. C'est un plus pour faire encore mieux avancer le football féminin sur le continent.
Pour ces éliminatoires qui vont démarrer cette semaine, la zone COSAFA aura 7 clubs pour un seul ticket en attendant de connaître les 2 autres qualifiés qui viendront de l'Est et du Centre Lawal. Enfin, les filles auront leur compétition du club en Afrique.
Ce n'est pas trop tôt, mais il faut le faire un jour. La CAF a eu l'intelligence de commencer par le faire. C'est déjà heureux et ça permettra de booster encore plus le foot africain à travers le continent. Et il faut préciser qu'au-delà de ce développement du foot féminin, il faudra que la CAF prenne les dispositions nécessaires pour pérenniser cette initiative, parce qu'il ne suffit pas de faire une fois et puis après de laisser tomber. Ça doit également permettre aux différents pays de professionnaliser le championnat féminin.
Le Maroc l'a déjà fait, n'en parlons même pas de l'Afrique du Sud.
Les autres n'ont qu'à suivre le pas et à ce niveau-là, on aura quand même un niveau assez élevé pour cette Champions League au féminin. Déjà qu'on n'a pas la possibilité de rivaliser avec les Européennes sur ce point-là, mais il faut commencer quelque part. C'est déjà un bon début pour la CAF sous l'ère MOCP.
Précisons que la phase finale de cette première Ligue des Champions féminines aura lieu du côté de l'Égypte en novembre prochain. On prend la direction du Cameroun. Pour clore cette émission, Rider Rugby League a remporté le tournoi Lorient Biville. Il s'agit du rugby à 13 féminin, une discipline encore nouvelle dans le pays. 6 équipes sur les 8 attendues ont participé au tournoi disputé en formule de championnat et play-off. Emmanuel Juntap à Yaoundé pour plus de précisions.
Au ce tournoi de rugby à 13, Yaoundé, Douala et Garoua ont été représentés par 2 équipes chacune. À l'issue des 2 jours de compétition, Raiders Rugby League a été sacré champion de l'équipe 1. La formation a écrasé en finale une autre équipe de Yaoundé, 12 points à 0. Une victoire qui consacre l'expérience du club, selon la capitaine de Raiders Rugby League.
Donc, confiance et les encadrements du coach et conseil, on s'est beaucoup amusé. C'était vraiment super.
À cause de la pandémie du coronavirus, le championnat féminin de rugby à 13 n'a pu se disputer normalement. Le tournoi de Yaoundé a été une sorte de relance des activités. Adamou Moussa Sandjoubouba, président de la Cameroun Rugby League.
Nous avons un championnat qui est reparti de manière zonale. C'est-à-dire nous avons une zone littorale qui se joue à Douala, il y a la zone du nord et il y a la zone du centre. Puis il y a la pandémie qui nous a un peu bloqués l'année passée, mais pour le moment c'est de manière timide.
Les équipes nationales féminines et masculines de rugby à 13 du Cameroun vont participer au tournoi de la France-Afrique prévu en octobre prochain à Montpellier. Paul Youmi, président du comité d'organisation du tournoi, Lauriane Bigil.
Ce que les enfants viennent de pleurer sur le stade, il est clair que les éducateurs font un travail assez bien. En tant qu'entraîneur national aussi, je peux voir qu'il y a encore du boulot.
Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Albert, le rugby s'installe dans toutes ses formes en Afrique.
Je crois déjà que le rugby existait déjà sous toutes ses formes sur le continent, qu'il soit à 7, à 13 ou à 15. Après, on sait que l'élite du rugby africain est du côté de l'Afrique australe, dans toute la grande région au sud du continent. Aujourd'hui, d'autres pays veulent exister avec le rugby. C'est le cas du Cameroun et ce rugby à 13 là. Le Cameroun est un pays de sport, c'est une nation de référence en matière de sport. Donc c'est déjà aussi quelque chose d'assez logique que de voir le Cameroun vouloir, pourquoi pas, avoir sa part d'existence en matière de rugby à 13. Le rugby est un sport qui promeut beaucoup de valeurs, un sport assez noble qui essaie aussi de sortir de son terreau austral, de son terreau au sud du continent pour devenir un sport aussi africain. Il essaie, on a vu récemment des équipes du Sénégal, on a vu beaucoup d'autres pays comme ça commencer aussi par frapper à la porte de la première division du rugby sur le continent pour commencer aussi à exister. C'est tant mieux pour le sport. Tout ceci fait avancer le sport et tout ceci fait quelque part exister l'Afrique en matière de sport.
Amine, après le rugby à 7 qui a réussi son implantation sur le continent, la perfection se poursuit.
Tout à fait, Lisée, c'est une opération qui ne peut être que bénéfique pour cette discipline. Le Cameroun peut servir de laboratoire pour son implantation future un peu partout sur le continent, sachant que le rugby à 13 a longtemps été considéré comme le parent pauvre de cette discipline. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du rugby à 15, du rugby à 7, qui est un statut olympique, un peu moins de ce rugby qui était considéré, qu'il est toujours comme professionnel avant l'heure. On verra dans quelle mesure la réussite de cette opération au Cameroun pourra rejaillir sur les 54 pays du continent. Aujourd'hui, nous avons un véritable laboratoire au Cameroun. On espère tirer des conclusions et surtout apprendre des leçons de cette organisation.
Merci Amine. Je rappelle que vous intervenez depuis Casablanca au Maroc. Sporama, c'est fini. Merci Laval.
Élisée, merci.
Merci aussi à Medine Si qui était en direct de Columbus dans l'Ohio et Albert Ogouredji à Cotonou au Bénin. On vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555.